Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une histoire extraordinaire que je vous propose de découvrir aujourd'hui, qui semble tout droit sortie de la mythologie, et pourtant, c'est une histoire totalement vraie et de notre temps. Avec des naissances en pleine mer, des femmes qui meurent mystérieusement, un père navigateur charismatique, des naufrages, des tempêtes, des disparitions. Cette histoire, c'est celle de notre invitée, qu'elle raconte dans un récit éminemment littéraire paru sous le titre « Les enfants du large » aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Virginia Tangwald.
Bonjour Catherine.
Vous êtes la fille de Peter Tangwald, aventurier légendaire. Vous êtes née sur son voilier, mais 2 ans après, votre mère a décidé de s'enfuir avec vous. Vous pensez qu'elle vous a sauvé la vie ?
Oh, elle m'a absolument sauvé la vie. Et vraiment parce qu'elle avait un pressentiment, un instinct, parce que ce n'était pas planifié. Elle était partie faire les courses et elle a vu des gens sur des terrasses de café en train de faire leur vie. Puis elle s'est sentie comme si elle vivait à l'écart du monde, un peu comme dans une secte. Et elle a décidé comme ça, sur un coup de tête, de s'enfuir.
Il faut dire qu'elle était la 7e femme de votre père, que certaines de ses précédentes compagnes avaient disparu, mystérieusement donc, étrangement. Et d'ailleurs, en 1991, un nouveau drame arrive, puisque votre père et votre sœur Carmen, âgée de 8 ans, meurent dans un naufrage. Un accident qui, compte tenu de son expérience de marin, n'aurait pas dû avoir lieu. Qu'en pensez-vous ?
C'est incompréhensible. Il aurait dû savoir que c'était la route la plus dangereuse, que c'était la route la moins marine à prendre, celle qui était exposée au vent, les plus sauvages, et il l'a pris quand même. Je ne sais toujours pas quoi en faire, il faut vivre avec ce mystère.
Ce naufrage, c'était près de l'île de Bonaire, n'est-ce pas ? C'est où exactement ?
C'était sur l'île de Bonaire, juste au nord du Venezuela.
À ce naufrage, survit votre frère aîné, Thomas, qui, malgré le traumatisme de sa propre mère assassinée auparavant, de sa petite sœur et de son père noyé, devient à son tour navigateur, jusqu'à ce qu'il disparaisse il y a 10 ans. Vous avez pensé à une malédiction ?
Oui, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi le malheur se répétait, pourquoi la tragédie frappait toujours sur nous, sur la descendance.
Quel était votre lien avec ce frère, Thomas, demi-frère ?
D'abord, après le naufrage, je le voyais comme le seul survivant de pas seulement ma famille, mais de ma patrie. Parce que j'étais née sur un bateau, j'avais pas d'autres repères, j'avais pas d'autres gens qui avaient la même expérience que moi, les mêmes racines, quoique c'est difficile de parler de racines parce qu'on est sur l'eau. Et après l'accident de bateau, après le naufrage, je comptais beaucoup sur lui pour me dire qui j'étais et comment je devais vivre, parce que j'avais encore cet espoir de marcher dans les pas de mon père, que j'admirais énormément, et j'aspirais à la même histoire de liberté, de quête absolue que mon père, que je trouvais incroyable, enivrante, irrésistible. Et quand j'ai rencontré mon frère, j'ai découvert quelqu'un qui était complètement détruit. Et j'ai fini par m'enfuir de lui, de la même manière que ma mère s'était enfuie de mon père. Et j'avais encore cet amour et cet attachement envers lui, mais avec une peur qui me tenait à distance.
Alors, il est vrai que vous n'avez pas grandi l'un avec l'autre, puisque quand votre mère s'enfuit avec vous, donc je le rappelle, à l'âge de 2 ans, vous allez vous installer au Canada, au Québec. À quoi ont ressemblé votre enfance et votre adolescence à Montréal, Virginia Tangwald ?
C'est la première fois qu'on me pose cette question d'entrevue. C'était une enfance assez errante. On déménageait tout le temps, d'une part, mais aussi j'étais cet enfant qui venait de nulle part et qui trouvait pas tout à fait mes repères, qui comprenait pas trop les codes. Je sentais que j'étais de passage et que j'étais pas vraiment à ma place.
Pourquoi est-ce que vous déménagiez ?
parce que ma mère aussi, elle se cherchait, elle se demandait, elle est en train de refaire sa vie. Ma mère, elle avait 24 ans quand j'en avais 5 et elle avait, elle aussi, aspiré à être navigatrice toute sa vie. Alors elle aussi, elle devait comprendre quoi faire avec sa vie. Et on a vagabondé longtemps avant de commencer à trouver des repères.
Vous disiez tout à l'heure, Virginia Tangvall, que vous aviez l'espoir peut-être d'aller sur les mêmes traces que votre père navigateur. Ça veut dire que votre mère ne vous avait jamais brossé un portrait négatif qu'elle vous avait laissé dans l'image d'un homme. En plus, il était d'origine norvégienne, donc grand, blond, athlétique, fin, solaire.
Pas vraiment, je crois que c'était presque neutre et factuel, sa manière d'en parler. J'étais née sur un bateau, mon père c'était un navigateur, il y avait eu un naufrage mystérieux. C'était ni positif ni négatif, mais je crois que mon père était un mystère pour tout le monde, y compris ma mère.
À quel moment est-ce que vous avez commencé à vous poser des questions sur votre famille, sur votre père, sur vos frères et sœurs?
J'ai toujours eu soif de comprendre plus, parce que j'avais seulement connu mon père au travers de la mythologie de mon père. Puisque c'était un navigateur célèbre, il y avait des articles qui avaient été écrits sur lui, il avait publié des autobiographies. Alors, j'avais toujours eu soif de le connaître au travers de ses écrits, d'autant plus que je me sentais en errance et avec une identité incertaine. Fragmentée, j'avais d'autant plus soif de connaître mon père. Mais il y avait toujours eu cette tension de... Je trouvais que sa quête était tellement belle et lumineuse, galvanisante, mais en même temps, je voyais bien comment elle avait conduit tout le monde vers la mort. Alors j'avais toujours vécu avec cette tension. Mais quand je me suis vraiment mis à me poser des questions et à me dire qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait que je trouve une solution ou que je passe au travers un cap, que je passe le cap, c'était quand mon frère est disparu en mer il y a 10 ans et que je me suis dit, ça y est, la prochaine, c'est moi.
Vous avez pensé ça parce que effectivement la disparition de votre frère Thomas est aussi mystérieuse puisqu'il vit sur un bateau, il a 2 enfants en bas âge et un jour il part et le bateau, on le retrouve fracassé. N'est-ce pas? Mais jamais son corps.
On n'a pas trouvé le bateau.
Ni le bateau.
Ni d'épave, ni de bateau. Il y a eu des rumeurs d'avoir trouvé une épave avec un corps, avec des dreads à l'intérieur. Mais c'était que des rumeurs qui avaient été démenties par les autorités. Alors, il n'y avait jamais eu rien de confirmé. C'est très mystérieux aussi, la disparition de mon frère, parce que comme notre père, il a pris un chemin complètement improbable, alors que c'était un excellent navigateur. Il a pris des risques inimaginables. Et pourtant, s'il y avait quelqu'un qui était capable de survivre, c'était lui. Et c'était quelqu'un qui était capable à la fois de prendre ce chemin dangereux et d'y laisser sa peau, autant que c'est quelqu'un qui est capable de décider qu'il change d'identité, qu'il change de vie du jour au lendemain.
Vous avez encore cet espoir qu'il vive quelque part sous une autre identité?
Oui, c'est plus fort que moi.
Donc à partir de ce moment-là, de ce nouveau choc, vous décidez de mener une enquête. Et vous allez voir des gens, vous allez sur les lieux, vous allez compulser des archives, la correspondance, les journaux, vous allez... On va en reparler, mais qu'est-ce que vous cherchiez à savoir exactement? Si ce père avait été vraiment un héros ou si c'était un ogre qui avait englouti ses femmes et ses enfants?
J'avais envie de savoir si c'était un héros ou un ogre, c'est sûr. Mais en même temps, je croyais ni à l'un ni à l'autre. Alors, je suis partie sur ces traces et ce qui était difficile, c'est qu'on me posait souvent cette question. Qu'est-ce que tu cherches? Comment est-ce que je peux t'aider? Quelle est ta question? Et j'étais pas certaine de ce que je cherchais. J'avais juste cette impression, cette obsession qui me disait qu'il y avait une pierre qui n'avait pas été retournée, qu'il y avait quelque chose à comprendre, qu'il y avait une clé, qu'il y avait une information cachée quelque part à laquelle j'avais pas eu accès, mais qui agissait sur moi.
Et vous l'avez trouvée, cette réponse? Cette clé?
Je me suis trouvée moi, je crois. Et c'est déjà ça. Oui, je crois que... Il y aura toujours des mystères, mais je crois que j'en ai trouvé assez pour me faire une idée et pour déconstruire le mythe de mon père et reconstruire un portrait d'un homme. Un homme qui était avec des qualités et avec des failles.
Et une forme de folie, peut-être ?
Absolument. Beaucoup de folie.
Donc, je le disais à l'instant, Virginia Tengvall, vous avez enquêté et à un moment de votre... récit, vous vous retrouvez en Espagne, près d'Andorre, où vivaient votre marraine et son mari, qui ont accueilli Thomas, votre frère, au moment de la mort de votre père. Et là, il y a de longs échanges, surtout avec Claire, puisque Edward, lui, est âgé et mutique. Et j'aimerais bien, si vous voulez... que vous nous lisiez un extrait, ce passage des Enfants du Large, votre récit, où l'on vous voit dans cet endroit, face à ces archives.
Avec plaisir. Il avait fallu que j'achète une deuxième grosse valise pour contenir les centaines de lettres échangées entre mon père et ses amis. Elle était grande ouverte sur le lit simple à côté du mien. Les lettres jaunies s'y entassaient dans le désordre comme autant de petites dents cassées dans une bouche béante. J'en ai pris une entre mes mains. Comment quelque chose d'aussi fragile avait pu traverser 60 années ? J'essayais de ne pas m'endormir. J'avais l'impression d'être dans le gaz depuis mon arrivée en Andorre, malgré l'air pur des montagnes. Je ne m'habituais pas à ces hauteurs. Les murs de la chambre que j'avais louée étaient recouverts de papier peint fleuri, rose et violet. Les pétales ouverts, tels des visages fragiles et exubérants au bout de tiges, se courbaient en toutes directions, langoureux et obscènes. On aurait dit que ces fleurs cherchaient quelque chose, qu'elles avaient entendu un bruit, une parole prononcée par quelqu'un qu'elles ne pouvaient voir. J'avais l'impression de flotter au-dessus d'elles. Je ne savais pas qui hantait qui. Un silence morne absorbait l'hôtel, toujours vide à ce moment de l'année. Les touristes venaient plutôt l'hiver pour skier. Mon palais était encore tapissé par la poussière qui flottait dans la chambre de Thomas. J'ai ouvert la fenêtre pour tenter de me réveiller, mais rien n'y faisait. Je n'avais jamais vu de montagne aussi imposante. On aurait dit les vagues géantes d'une tempête immobile. Je pensais à Thomas et à comment il a dû se sentir ici. Dès son arrivée en Andorre, il avait commencé à être traversé par des accès de sommeil brusques et irrépressibles. Et cela pouvait durer des jours. J'ai doucement ouvert le journal de bord de mon père alors que mes paupières s'alourdissaient, comme pour m'endormir avec ses mots.
Merci beaucoup.
And said farewell and tied the knot and raised a sail. We threw our hearts into the sea, forgot all of our memories. The wind was sweet and smelled of home. The sea was rough and felt unknown.
escaping shores of lunacy. Dawn light, twilight, infinity. Can we keep our bearing straight? Or will we be blown off course? Are we instruments of fate? Or do we really have a choice? Whispers in the gales, like in the songs and shattered tales, where krakens raging in the sea crack shapes into a million pieces. Or can we keep our bearings straight? Blown off course. Are we instruments of fate? Or do we really have a choice?
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de Virginia Tangwald, dont le premier livre vient de paraître sous le titre Les enfants du large aux éditions La Thèse, où, comme on l'a entendu en première partie, vous remontez le fil de vos origines, celle d'un père, d'un frère et d'une sœur disparues en mer. D'ailleurs, c'est à Carmen, qui avait 8 ans, que vous dédiez ce texte. Pourquoi, Virginia Tangwald?
Parce que, pour moi, dans l'histoire, c'est la plus grande tragédie. C'est la perte de ma sœur, qui avait 7 ans. Et tout le monde dans cette histoire qui a perdu sa vie... C'est une tragédie, mais elle, c'est la pire d'entre toutes, parce que les enfants, on doit les protéger, on ne doit pas les enfermer dans des cales. On doit leur donner une chance, et elle, elle a eu le choix de rien. Et c'est vraiment pour elle que j'ai trouvé ça le plus difficile, et j'avais envie qu'on se souvienne d'elle.
Parce qu'elle était innocente, en effet, et qu'elle a été quoi, sacrifiée par l'orgueil de votre père, vous diriez?
Oui. Elle a été sacrifiée parce que mon père, il avait dit qu'il serait libre quel qu'en soit le prix. C'était même le titre de son autobiographie. Et je crois que ce que j'ai compris de plus fort au travers de tout ça, c'est que le prix, c'était nous. Et qu'il acceptait ça. Et que si on acceptait la quête de notre père, alors... on acceptait que nous, on payait le prix de cette soif de liberté de notre père.
D'ailleurs, vous l'écrivez, Virginia Tangwald, les enfants paient les dettes de leurs parents. Quel a été le prix que vous avez dû payer?
Moi, je suis réchappée, miraculeuse, vraiment grâce à ma mère, grâce à des forces mystérieuses peut-être, mais moi je m'en suis tirée. Ce que j'ai perdu, c'est j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mon sentiment d'appartenance, mais j'ai reconstruit une famille et je me suis ancrée autre part et j'ai eu une chance d'avoir une vie, d'avoir ma vie et de pouvoir reprendre les rênes sur ma vie.
Même si le prix de cette nouvelle vie est d'apprendre que votre père est peut-être responsable de la mort de ses deux épouses précédentes, enfermer ses enfants dans la cale, donc peut-être responsable de la mort de votre petite sœur, même à ce prix.
C'est pas grave ça. C'est pas grave de voir. Il faut voir la vérité. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et j'ai jamais eu peur de ce que j'allais découvrir ou de ce à quoi j'allais me confronter. Parce qu'une fois qu'on peut poser les mots, on peut se positionner, on peut faire des choix. Ce qui est terrifiant, c'est de vivre dans les limbes. et de jamais voir quelles sont ces forces qui agissent en nous.
C'est un récit donc qui pose la question en effet de la liberté, mais vous l'écrivez libre de faire quoi ? C'est quoi la réponse ? C'est quoi être libre ?
Par moments, le mot liberté pour moi a complètement perdu de son sens. Parce que c'est pas une fin en soi être libre. J'ai plutôt l'impression que c'est un sentiment qui nous traverse de temps en temps quand on fait une vie qui nous plaît, qu'on prend les bonnes décisions, qu'on est intègre. Mais ça veut rien dire. J'ai l'impression que les gens, ils veulent vivre dans un vidéoclip avec dans une voiture avec les fenêtres ouvertes et les cheveux au vent et qu'ils voient la liberté comme ça. J'ai l'impression que mon père, il voulait vivre dans cette sensation constante d'être libre. Ça veut plus dire grand-chose pour moi, ce mot-là. Et aussi, j'ai l'impression qu'il voyait la liberté comme un oiseau qu'il pouvait attraper et consommer, presque. Mais à partir du moment où tu l'as consommé, il est mort. Il voulait que ça lui appartienne, mais la liberté ne nous appartient jamais. C'est un oiseau libre qui viendra de temps en temps. Mais tu ne peux pas la posséder, tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas la garder avec toi.
Je m'arrête là sur cette image que vous venez de décrire, parce qu'il se trouve que vous êtes aussi réalisatrice, Virginia Tangwald. Vous n'êtes pas seulement écrivaine. Vous avez une formation de musicienne également. Qu'est-ce que vous filmez, vous ?
De manière générale ?
Oui.
Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les thrillers psychologiques, les huis clos, les relations familiales tendues. c'est ce qui m'intéresse le plus. Ouais, j'ai un style plutôt impressionniste dans la réalisation.
Et vous filmez des fictions, des documentaires ?
Bah là, je viens de réaliser un documentaire cinéma avec le même titre, Les enfants du large, qui parle de la même histoire.
Donc, vous êtes passée par l'écriture et aujourd'hui, vous arrivez à l'image. C'était nécessaire de passer d'abord par l'écriture.
En fait, j'ai fait les deux en parallèle. À la base, je suis réalisatrice. Mais en réalisant le film, j'avais l'impression que les images ne suffisaient pas. J'avais la liberté des images, mais j'avais aussi la contrainte des images. Et j'avais besoin de poser les mots. J'avais encore besoin de cette étape supplémentaire où je pouvais poser les mots, où je pouvais décrire des odeurs, où je pouvais dire, formuler ma voix intérieure plus explicite que ce que le cinéma me permettait de faire.
Donc pour le film, vous allez aller sur les mêmes lieux que Les Enfants du Large, l'île de Bonaire dont on parlait, Porto Rico, Montréal... Et j'en oublie parce qu'il y a aussi l'Espagne, peut-être la Norvège, d'où était originaire votre père.
J'ai tout fait ça, oui, pour réaliser le documentaire. Et c'est ce qui m'a aussi permis d'écrire le livre, c'est que quand j'étais là, je remarquais tout, j'absorbais tout parce que j'écrivais le livre en parallèle. Alors je pouvais vraiment voir à quoi ressemblaient les récifs où on avait découvert le corps de ma sœur, où mon frère avait marché quand il avait survécu au naufrage. J'ai pu rencontrer les gens qui l'ont accueilli, vraiment. Alors oui, j'ai vraiment été sur tous les lieux que j'ai décrits.
Donc vous avez un rapport apaisé avec la mer, l'océan, vous naviguez paisiblement ?
Oui, oui. Parce que la mer en est pour rien, elle est indifférente à nous, la mer. Et c'est peut-être ce qui la rend aussi belle, c'est qu'on n'est rien, on n'est rien sur elle. Et il y a quelque chose de libérateur. Quand je suis sur l'eau, je sens vraiment que le rythme de mon corps est aligné avec celui de la mer. Ça me fait un effet physique très, très fort. J'en rêve encore. Mais je n'ai pas du tout ce rêve maintenant de vivre en mer. J'ai envie d'être avec les autres. J'ai envie d'être parmi les hommes. Je me suis vraiment tournée vers les autres depuis que j'ai fait cette recherche et que j'ai écrit ce roman, que j'ai réalisé ce film, parce que j'ai l'impression d'avoir de m'être fait mon propre passeport, de m'être trouvé un point d'ancrage parmi les autres.
Justement, c'était une question que je me posais. Quand on a un père norvégien, une maman belge, qu'on grandit à Montréal, où est-ce qu'on se sent chez soi ?
Nulle part. Vraiment nulle part. Je crois que je suis à Paris depuis 6 ans et c'est l'endroit où je me suis peut-être le plus sentie chez moi. Et pour la première fois, surtout que j'ai eu un enfant ici et je veux qu'il grandisse à Paris. C'est la première fois où je me suis mariée avec un endroit où je me suis dit, je ne suis pas ici de passage, je suis ici pour toujours. Et oui, je dirais, je me sens assez chez moi à Paris, oui.
Je fais une petite parenthèse qui n'est pas du tout intrusive, mais il se trouve que vous parlez très peu de votre mère, pour dire pas du tout, à vrai dire. Pourquoi ?
Parce que ma mère fait partie de ces gens qui n'ont pas envie de parler de ce qui les hante. Elle est tournée vers la vie. Elle a toujours eu cette faculté-là. Elle n'a jamais eu envie de regarder en arrière. Moi, j'ai eu besoin de regarder en arrière. Et elle ne m'amenait pas beaucoup de réponses, en fait, ma mère. C'était... mon père avait toujours été un mystère pour elle. Elle était très jeune. Elle a eu cet élan vital, ce courage de faire les choix les plus difficiles qu'il y a à faire, parce que quand elle a quitté le bateau, elle a laissé ma sœur derrière alors qu'elle l'avait élevée comme sa fille et aimée comme sa fille. Mais on n'en parle pas. Et je crois que c'est plus moi qui lui amène des réponses qu'elle.
Elle a lu Les Enfants du Large ?
Oui, elle a adoré.
Ah. Vous le disiez il y a un instant, Virginia Tengvall, vous avez un enfant qui s'appelle Orphée. Je ne dévoile rien puisque vous l'écrivez. Orphée, c'est le nom d'un personnage de la mythologie qui justement est descendu aux enfers et est revenu du monde des morts. Est-ce qu'avec ce livre, après ce livre, vous avez, et après ce film, vous avez en effet la sensation d'être revenu du monde des morts ?
Oui, oui, parce que j'avais toujours eu l'impression de vivre avec les morts, parce que je vivais tellement avec ma sœur, avec mon père, avec leur spectre. Ils faisaient tellement partie de moi, ils occupaient mes pensées, j'ai grandi avec eux, que j'avais l'impression d'être autant avec les morts qu'avec les vivants, et d'errer entre les deux mondes toujours. Comme si les deux mondes s'infiltraient l'un dans l'autre. Et depuis que j'ai fait ce livre, je me sens plus ancrée dans le présent, dans la vie. Et oui, j'ai vraiment l'impression d'être revenue du monde des morts, oui.
Et d'être du côté de la lumière et du soleil.
Oui.
Merci beaucoup, Virginia Tengvall, d'être venue nous parler de ce livre. Je rappelle le titre de ce texte qui vraiment est très impressionnant d'un point de vue littéraire et d'un point de vue personnel, Les Enfants du Large, qui a paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Merci encore.
Merci à vous, Catherine.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.